France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touré.
Bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, le sommeil pour bien grandir, bien apprendre, bien vivre, ou plutôt à la recherche du sommeil perdu.
Dans son manteau rouge.
L'Empire du Sommeil, magnifique titre pour une fort jolie exposition, elle se tient jusqu'en mars 2025 au musée Marmottan-Monet, à quelques encablures de Radio France. Si vous passez par là, n'hésitez pas, le lieu vaut le détour. Les 130 œuvres proposées représentent des dormeurs et dormeuses, parfois des enfants. Elles évoquent le repos, l'abandon, l'insomnie aussi, le rêve. Elles nous incitent à questionner la place que tient le sommeil dans nos vies et celle de nos enfants, des jeunes. Le sommeil est-il simplement utile, par exemple? Certes, le tiers du temps que nous passons sur Terre à dormir nous permet de vivre le reste, mais ne s'agit-il pas aussi d'un moment et même d'un lieu en soi, en nous-mêmes, pour se perdre, se retrouver, pour oublier ou pour justement que la mémoire fasse son travail? Bref, dormir, n'est-ce pas vivre aussi? Mais vivre gratuitement, et c'est peut-être pour cela que notre époque n'aime pas trop le sommeil et valorise ceux qui savent dormir moins pour travailler plus. Enfin, et aussi, la toute récente convention citoyenne du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, préconisait de mieux tenir compte des temps de l'enfant. On va en parler dans cette émission. Dans ce monde connecté et inquiet, nous dormons moins, et c'est bien pour ça aussi qu'on évoque ce sujet. Les ados ne dorment pas suffisamment, c'est un problème auquel nous avons du mal à faire face à l'école et en famille. Et d'ailleurs, ce n'est pas facile de convaincre un enfant de dormir, surtout à Noël.
Tes yeux se voilent, écoute les étoiles, tout est calme. Reposer, entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher.
Stéphanie Maza, est-ce que vous aimez bien les berceuses, comme cette berceuse de Noël qui tombe à pic, 24 décembre ?
J'adore. Tout ce qui va nous faciliter le sommeil, ce sont des choses que j'adore.
Vous êtes professeure des universités à Lyon 1, chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, le CRNL. Et vous enseignez la psychologie cognitive et la neuropsychologie à l'INSPE de Lyon, c'est-à-dire que vous formez des enseignants. Et vous êtes vice-présidente de l'Institut national du sommeil et de la vigilance et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. J'ai encore 6 lignes de présentation, mais je les donnerai tout à l'heure avec nous également à distance. Claude Gronfier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, à Bron, dans le Rhône. Vous êtes neurobiologiste, spécialiste des rythmes biologiques et du sommeil, président de la Société francophone de chronobiologie, parce qu'au-delà du sommeil, on va parler de tous les rythmes, ceux de la journée, de la semaine, de l'année, donc des vacances scolaires. Il y en a été question dans la Convention citoyenne autour des rythmes de l'enfant, et je crois que ça concerne évidemment le sommeil. Mais on va entamer cette émission avec une enseignante qui avait publié une tribune sur la question du sommeil. Elle s'appelle Myriam Enouaman Jouali. Elle enseigne les lettres et l'histoire-géographie en lycée pro dans l'Académie de Strasbourg et elle est coordinatrice du dispositif AmbiPro. Elle a beaucoup réfléchi à cette question de la fatigue des élèves.
Aujourd'hui, un élève qui traverse une porte, qui entre dans une salle de classe, il entre pas tout seul. Il entre avec sa fatigue émotionnelle, sa fatigue sociale, sa fatigue scolaire, sa fatigue familiale. Il entre avec son parcours de vie, il entre avec son histoire. Et donc, quand on va essayer de faire un cours, on va le faire à l'élève et tout le bagage qu'il a autour de lui. Et il faut qu'on s'adapte à son environnement, à tous ces facteurs qui le composent. Et le sommeil est une grande partie de son histoire. Un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant qui a des troubles d'attention, de mémoire, d'inhibition, de régulation émotionnelle. Il y a tout qui s'effondre autour de lui et l'accès aux apprentissages n'est plus disponible. Et alors, nous, en tant qu'enseignants, on n'arrive plus à transmettre. C'est pour ça que la question du sommeil est très importante. Avant de pouvoir agir sur tous les plans, il faudrait d'abord agir sur le sommeil pour qu'il soit présent et acteur de lui-même et acteur de son parcours scolaire. À ce moment-là, on pourra tendre la main et transmettre pédagogiquement et éducativement. Les emplois du temps sont construits pour les adultes et les contraintes institutionnelles. Ils sont rarement construits avec la vraie réflexion des rythmes biologiques des adolescents. Et c'est ça la problématique, essayer de mettre tout le monde dans la même synergie. Et à un moment donné, il va falloir choisir, est-ce qu'on met, on priorise le rythme biologique de l'adolescent au risque d'impacter le confort de l'enseignant, de l'adulte qui va accompagner le jeune, ou est-ce qu'on continue dans ce rythme-là qui n'est pas vraiment un rythme adapté au sommeil des adolescents.
Mais est-ce qu'on peut changer les habitudes finalement au-delà du sommeil ? Ça pose quand même une bonne question à l'école.
C'est un système qui a été pensé il y a bien longtemps et qui a fonctionné pour un public, celui de l'époque. Celui d'aujourd'hui, c'est un public qui est différent. C'est un public avec l'explosion de l'usage des écrans, etc. Ce système, il faut le réajuster, il faut le reparamétrer et ça demande de revoir le terrain dans sa globalité. C'est beaucoup plus complexe. On peut pas apporter de réponse claire comme ça, concrète. Oui, on peut, non, on peut pas. Il faut prendre en compte tous les facteurs.
Parole d'enseignante et parole importante, je crois, donc Myriam Enouaman-Jouali, Stéphanie Matza. Le sommeil est un problème de santé publique et on entend aussi qu'il est tellement global, ce problème, qu'on ne sait pas quel fil tirer et qu'on ne sait plus comment agir face à quelque chose qui touche trop d'enfants dans trop de paramètres de leur vie.
Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a plus aucun doute sur le fait que la dette de sommeil va avoir un impact très fort sur la santé physique et la santé mentale. Maintenant, reste à savoir à qui est-ce qu'on doit s'adresser pour améliorer le sommeil. Parce que souvent, on a un peu la sensation que le sommeil, c'est quelque chose qui se joue uniquement dans la sphère familiale. Et en fait, on se rend compte que non, même au niveau de la société, on a quand même des rythmes qui vont altérer la mise en place d'un sommeil de qualité. Donc, c'est vraiment une réflexion conjointe qu'on doit avoir, et notamment quand on parle d'adolescents, pour leur permettre d'avoir un sommeil de qualité et suffisant également en volume. Donc à force de quelque part se lancer la balle les uns les autres, effectivement, on finit par se rendre compte que personne saisit le problème vraiment à la source.
Donc c'est pas juste aux parents d'intervenir sur cette question et de faire la police du dodo.
Les parents sont essentiels. On a plein de données scientifiques qui nous montrent qu'effectivement, le rôle des parents est très important pour maintenir un rythme, mais il n'est pas l'unique facteur. On sait que pour l'adolescence, l'horaire de prise de cours le matin n'est pas un horaire qui est physiologique. Donc même si vous avez un parent qui est extrêmement sensibilisé à la question, un adolescent, à cause de la puberté, va avoir un décalage de phase. Et ce décalage de phase va faire que si on le réveille trop tôt, il sera en dette de sommeil.
Alors on va y revenir, mais dans un tout petit instant, à cette histoire du temps, de l'emploi du temps et finalement du début des cours à 8 heures, parce que c'est ça ce que vous voulez dire. Mais Claude Gronfier, même question. Le sommeil, est-ce que c'est devenu un problème de santé publique et particulièrement pour les jeunes ?
Oui, bien sûr, c'est devenu un problème de santé publique pour les jeunes et pour les moins jeunes. On est tous confrontés au même problème. La difficulté pour les jeunes supplémentaires, c'est que pendant l'enfance, pendant l'adolescence, eh bien la biologie va induire un décalage du sommeil, on y reviendra peut-être, qui fait que naturellement, eh bien le sommeil se décale chez les enfants, ce qui fait que le matin, quand on les réveille, ou quand ils se réveillent, ou quand ils doivent se réveiller à 7 heures du matin, par exemple, eh bien à l'heure interne, à leur propre heure biologique, il n'est que 6 heures. Et donc, ça complique encore plus les choses. Ils sont confrontés à ce problème-là, ils n'y peuvent rien. Et donc, c'est un moment particulièrement difficile qu'il faut prendre en compte.
Donc, on comprend bien que le sommeil d'un enfant de 4 ans, d'un enfant de 10 ans et d'un ado de 15 ans, ce n'est pas la même chose. Mais vous parlez de décalage. Or, on sait qu'on vit suivant une horloge décalée par rapport à l'heure universelle. Une heure de décalage en hiver, 2 heures en été. Est-ce que ça fait partie du problème ?
Oui, ça fait partie du problème. Évidemment, c'est d'autant plus difficile quand on est un couche-tard, lève-tard. puisque on va être très très décalé par rapport à l'heure du sommeil, à l'heure du soleil, pardon, en été. Et ça se surajoute au problème de la biologie qui prend naturellement son retard. On accentue ce retard avec le changement d'heure. Donc c'est d'autant plus difficile pour les plus jeunes, oui.
Alors, des plus jeunes, on en a deux dans le studio avec nous, puisqu'en décembre, c'est la grande période des stages de troisième et particulièrement à la Maison de la Radio. Bonjour Marie-Lou, bonjour Alphonse.
Bonjour.
Enfin, on a passé une partie de la journée ensemble dans le bureau. Question toute simple, à quelle heure vous commencez les cours? Est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt? On commence avec toi Marie-Lou.
Alors moi, je commence les cours presque tous les jours à 8h10 du matin, donc il faut être au collège à 8h05. Et je trouve vraiment que c'est trop tôt parce que pour moi, être au collège à 8h, ça veut dire un lever à 6h30 du matin. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup trop tôt parce que j'ai du mal à me lever tous les matins parce que moi, mon horloge interne me dit de me réveiller à 8h30 le matin et pas à 6h30. Et souvent, je finis les cours vraiment tard, donc le fait de faire les devoirs tard le soir aussi, ça fait que je me couche tard et que j'ai beaucoup moins de sommeil que ce qu'il me faudrait en fait. Et donc, en cours toute la journée, bah, je suis fatiguée. Donc pour moi, c'est vraiment trop tôt, 8 heures.
Mais t'as le temps d'avoir des activités extrascolaires ?
Bah justement, en fait, je suis en CHAM, en classe horaire aménagée musique, donc j'ai moins d'heures de cours que les autres élèves. Mais je finis très tard, parfois, le conservatoire. Il y a des jours où je finis à 19h30, deux jours dans la semaine et d'autres jours à 17h30. Et donc, oui, je fais du chant et du violon. Mais ça fait que le soir, quand je rentre chez moi, le temps de mes devoirs, il est rallongé, surtout que comme on est en CHAM, on doit vraiment beaucoup travailler pour rester au niveau des autres élèves.
Donc ça fait un peu comme une journée d'adulte, même plus, puisqu'on ne ramène pas tous du travail à la maison. Enfin, moi si, Stéphanie Mazac, que pensez-vous par exemple de ce genre d'emploi du temps ?
Ben c'est vraiment un emploi
8h,
du temps.
19h.
C'est un emploi du temps typique, puisque là, effectivement, elle est occupée de 8h à 19h, mais ça ne s'arrête pas à 19h, puisqu'après ça, ben, elle va avoir le temps, justement, ben, peut-être de partager avec ses parents, puis après le temps de devoir. Et puis, ben, on sait très bien qu'à l'adolescence, on a aussi ben, plein de pensées qui permettent de faire qu'on est adolescent, l'envie d'être avec ses collègues, etc. Donc, inévitablement, ce n'est pas une journée qui s'arrête à 19h, et c'est une journée qui est bien, bien remplie.
Au collège, on est plutôt copains ou camarades de classe, mais c'est un peu des collègues aussi. Je plaisantais évidemment. Alphonse, toi, tu es aussi en troisième. À quelle heure tu commences les cours et qu'est-ce que tu penses de ton emploi du temps ?
Moi, je commence la plupart du temps mes cours à 8h, donc il faut être au collège à 7h50. Et je me lève donc à 6h30 et je trouve que c'est un peu tôt. Certains dorment en classe même quand ils trouvent ça trop tôt. Quand c'est trop tôt, donc voilà, c'est. Je pense que commencer les cours à 9h serait une meilleure possibilité.
Et récemment, tu m'as dit que tu avais fait un voyage scolaire en Allemagne. Oui. Et là, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu en as pensé ? Raconte-nous avec tes mots à toi.
Bah, en Allemagne, les élèves commencent beaucoup plus tard. Ils commencent à 9h déjà. Et la plupart du temps finissent à 14h, ce qui leur laisse pas beaucoup de temps pour faire leurs devoirs et pratiquer des activités extrascolaires. Ils font beaucoup de patins à glace et d'autres choses comme ça.
De patins à glace, peut-être parce que c'était au mois de décembre ton voyage ? Je sais pas, peut-être tes enfants l'étaient aussi. Je n'ai pas participé à ce voyage scolaire à Berlin. Ça t'a fait envie cet emploi du temps ?
Bah oui. Parce que comme ça, ils ont beaucoup de temps pour eux, pour faire des activités et pour faire leurs devoirs surtout.
Claude Gonfier, est-ce qu'il y aurait une particularité française de ne pas considérer les besoins, je ne sais pas si on dit comme ça, les besoins chronobiologiques des enfants et ados? Alors l'Allemagne, ce n'est pas forcément le paradis scolaire. Hein. D'ailleurs, il s'y est posé beaucoup de questions sur la demi-journée d'école, particulièrement pour les plus jeunes. Mais tout de même, on voit que les emplois du temps sont très étendus. On a parlé du collège, on pourrait parler du lycée, qui est encore plus exigeant en termes d'heures de cours et de présence dans l'établissement.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une particularité française. L'Allemagne, en l'occurrence, a raccourci la journée pour terminer plus tôt. Mais dans beaucoup d'autres pays, mais même aux États-Unis, même si l'emploi du temps est différent, la prise en compte des horaires idéaux de démarrage des classes n'est pas quelque chose qui est systématiquement pris en compte. Dans certains États, grâce à nos collègues Marie Carscadon et d'autres, c'est maintenant pris en compte. Le démarrage est un peu plus tardif, mais dans beaucoup d'États, les gens le prennent pas en compte et s'en fichent un peu. Donc, y a du travail qui a été fait aux États-Unis. Il faut qu'on copie ce travail et qu'on puisse mettre en place, nous, ce décalage de l'horaire des cours. Et c'est ce très beau travail que fait Stéphanie Mazza, que vous avez avec vous, et qui devrait permettre, si nos décideurs publics sont attentifs à ce qu'on dit, devrait permettre de démarrer plus tard.
Alors, à ce qu'on dit dans cette émission, bon, on peut dire que ce n'est pas grand-chose, mais à ce que a dit la Convention citoyenne du CESE, à ce que disent tous les chercheurs qui travaillent sur cette question, ça commence à faire beaucoup. Et je crois qu'une partie de la problématique de cette émission, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on ne fait pas ce qu'on sait qu'on pourrait faire et qui parfois s'applique. Et ça s'applique à tel point que dans certains établissements, on a décidé de changer les choses. C'est le cas d'un collège de Dijon où Sophie Pizzolo, donc qui en est la principale, a lancé avec le Conseil de la vie collégienne une réflexion sur les emplois du temps. Et les élèves ont donc pu s'exprimer sur cette question.
Ils nous ont clairement dit que le rythme était trop intense, à la fois de la journée et de l'après-journée. Donc, il y avait plusieurs problématiques. C'est-à-dire qu'il y a l'enchaînement des cours, il y a le rythme de début de cours, de fin de cours, et il y a le après, c'est-à-dire les devoirs à la maison. Donc, nous, la partie qui nous semblait le plus facile à modifier, entre guillemets, c'était vraiment cette question de la temporalité de la journée. Donc, on a mis en place des groupes. Les élèves se sont répartis comme ils voulaient, c'est-à-dire, pour seule consigne, de mélanger les niveaux de la sixième à la troisième et de nous faire des propositions sur c'était quoi pour eux leur journée idéale en termes d'organisation. Alors, leur journée idéale, c'est rétrospectivement, c'est assez intéressant dans le sens où, en fait, on s'aperçoit que ça rejoint complètement les conclusions de la Convention citoyenne, c'est-à-dire que les élèves ont proposé dans chaque groupe, sans qu'ils communiquent entre eux, chacun un début des cours à 9h. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était commun à tous les groupes de travail. Et puis, une organisation des cours différentes, c'est-à-dire avec davantage les matières dites théoriques le matin et des choses beaucoup plus concrètes l'après-midi. Donc nous, notre rôle d'adulte, ça a été, partant de ces souhaits-là, de voir avec eux ce qui était le plus facile à mettre en œuvre, entre guillemets, ce qui était le plus à notre portée, puisque bien sûr, on leur a expliqué qu'il y a quand même des contraintes qui sont le volume d'enseignement qu'on leur doit dans chacune des matières, le fait qu'on ait des professeurs qui soient en poste partagé et que donc ça contraint les emplois du temps, les questions de passage à la demi-pension aussi. Et donc, ce qu'on a pu retenir comme idée phare, c'est la mise en place de l'arrivée à 9h pour certains niveaux.
Certains niveaux, est-ce que vous pouvez juste me détailler de quel niveau on parle ?
On avait une interrogation là-dessus. Il se trouve que moi, j'ai pu échanger de ce projet-là avec une IPR de SVT, de l'Académie de Dijon, qui est référente académique de l'École promotrice de santé et qui s'était déjà grandement intéressée à cette question. Donc, je l'ai sollicitée et elle est venue intervenir auprès des élèves élus au CVC pour leur expliquer de quoi ils avaient besoin physiologiquement, c'est-à-dire en quoi le ressenti qu'ils avaient négatif sur comment est ma journée actuellement au collège et je la vis pas bien, scientifiquement, à quoi ça correspondait. Donc, elle leur a rappelé, je dirais, ou elle leur a appris leurs besoins physiologiques. Et elle a pointé du doigt le fait qu'effectivement, quand on les fait venir à 8h, en fait, ça correspond pas à leur rythme biologique. Donc, partant de là, on s'est interrogé sur la question de la mise en œuvre. Donc, moi, rapidement, je me suis quand même rendu compte que ça allait être compliqué de le faire pour tous les niveaux et qu'on allait devoir faire des choix. Et donc du coup, c'est Stéphanie Mazza qui nous a apporté ses lumières en nous précisant les choses et en nous disant que là où c'était le plus adapté, c'est arrivé à 9h, c'est pour les élèves les plus âgés, donc les niveaux 4e et 3e. L'écho côté adulte a été spontanément assez négatif. Parce qu'en fait, cette histoire de rythme biologique de l'élève, de la capacité attentionnelle de l'élève dans la journée, en fait, il y a une vraie contradiction. C'est-à-dire que du côté des adultes, c'est complètement contre-intuitif. Et les adultes sont convaincus et vous demandent, c'est-à-dire les enseignants demandent à ce qu'il y ait un maximum de cours, on va dire les plus ardus, qui soient positionnés très tôt le matin. parce que les adultes sont convaincus que à 8 heures, les élèves sont intellectuellement hyper disponibles. Ce qui n'est pas vrai. Et on voit bien que cette question, elle pose clairement le rythme de l'ado au rythme de l'adulte. Voilà.
Alors, on va revenir ensemble, Claude Gonfier et Stéphanie Maza, sur ce qu'on peut apprendre aux jeunes sur le sommeil. Parce que, évidemment, apprendre à dormir, c'est très intéressant. Mais il faut bien s'arrêter là sur ce qu'on apprend aux adultes, des besoins des élèves et aussi à les respecter. Parce que on l'a déjà entendu avec l'enseignante qui a parlé au tout début de l'émission, en fait, il y a quand même des besoins qui s'opposent. Et ça avait été aussi souligné par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire que en gros, il y a les besoins économiques, il y a les temps de transport des adultes, il y a l'idée aussi qu'on est plus en forme le matin, qui apparemment est un truc de petit enfant ou de personne un peu plus mûre que les ados, qui fait qu'on est en conflit, en fait, autour de cette question du sommeil.
Vous avez raison, moi j'ai un peu l'impression que souvent, quand on parle de l'ado, on a un petit peu oublié ce qu'on était quand on était ado, parce qu'on a vécu strictement la même chose, et on a un petit peu l'impression qu'on redécouvre ce que c'est que l'adolescence. Et en fait, quand on discute avec les parents de ces adolescents, il y a déjà une première crainte, c'est de se dire que si jamais on leur propose de se lever plus tard pour aller plus tard au collège ou au lycée, ils en profiteront pour se coucher également plus tard. Et en fait, tous les travaux qu'on a mis en place pour essayer de mesurer cet effet vont dans le sens inverse. Ils se couchent tard physiologiquement, mais c'est pas parce qu'on leur propose de se lever plus tard qu'ils se couchent plus tard. Alors bien entendu, on a un rôle parental à jouer, et justement leur expliquer qu'ils doivent profiter de cette heure supplémentaire pour dormir et non pas se coucher plus tard, mais c'est vraiment une idée qui est très ancrée. Il y a une autre idée qui est très ancrée, c'est que si on leur offre cette opportunité à l'adolescence, on va faire d'eux des fainéants adultes. Et on l'entend très souvent et on voit les critiques quand on parle justement de ce décalage, de nous dire, mais oui, mais quand ils seront adultes, on ne va pas leur proposer de se lever tard.
Parce qu'on a une représentation de la paresse.
C'est exactement ça. Et quand ils seront adultes, ils seront adultes. Donc, ils n'auront plus de difficultés à se lever le matin pour la plupart d'entre eux. Donc, je pense qu'il faut vraiment réserver cette mesure à ce moment de transition qu'est la puberté. Après, bien entendu, il y a d'autres facteurs. C'est-à-dire que, on a des parents qui vont nous dire, c'est quand même compliqué pour nous de les emmener au collège ou au lycée plus tardivement. Mais quand on regarde le nombre d'élèves de collège et de lycée qui sont déposés par leurs parents, c'est quand même une proportion infime des collégiens et des lycéens. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues par rapport à cette proposition qui, quand on a des principales comme Madame Pizzolo qui sont courageux au point de l'expliquer à leurs enseignants, on se rend compte que ça se met en place et ça se met en place vraiment au profit des élèves, mais aussi des enseignants parce qu'ils ont des élèves qui sont plus aptes à recevoir un cours de mathématiques à 9h plutôt qu'à 8h parce que c'est pas agréable de faire cours à 8h à des adolescents.
Et on a bien en tête que concevoir un emploi du temps, c'est extrêmement compliqué et qu'il y a beaucoup de paramètres. Hein. Ce n'est pas si simple, évidemment. Claude Gonfier, puisqu'on parle des rythmes et des adolescents qui se couchent tard, en fait, tout le monde se couche plus tard. On sait que les adultes se couchent plus tard. On sait que le temps de sommeil, globalement, a diminué dans la société et qu'on a tendance à retenir la nuit, enfin, pour rester réveillé. Et que ça incite peut-être pas les enfants et les ados à dormir si nous-mêmes, adultes, on se couche plus tard.
Donc oui, en effet, c'est une bonne remarque, le fait de penser qu'il faut d'abord montrer l'exemple à la maison. Quand on a des parents qui sont sur leur smartphone, qui se couchent tard, et bien ça va pas nécessairement inciter les enfants de la famille à se coucher plus tôt et à abandonner leur smartphone plus précocement. Donc il y a ce phénomène à prendre en compte. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant, c'est dans les familles dans lesquelles les écrans sont très utilisés, les enfants sont aussi plus utilisateurs que dans les autres familles pour lesquelles les écrans sont moins utilisés le soir. Et ce qui se passe là encore, on n'est pas égaux biologiquement face à notre environnement. On a parlé tout à l'heure du fait que pendant l'adolescence, l'horloge biologique interne prend du retard, en moyenne entre 1 et 3 heures de retard par rapport à l'adulte et par rapport à l'enfant plus jeune. Mais il y a aussi pendant cette période-là une sensibilité plus élevée à l'environnement et en particulier à la lumière. Et cette sursensibilité à la lumière le soir fait que cette lumière qui sera perçue le soir via les écrans, via la lumière de la maison, via la lumière dans le métro, peu importe, la lumière urbaine aussi, eh bien ça va accentuer le problème qui naturellement fait que l'horloge prend du retard, ça va accentuer ce retard. Donc c'est ça qui explique aussi pourquoi les adolescents, dans cette période-là, vont être particulièrement dans une situation critique. À la fois, leur horloge prend du retard, l'environnement va accentuer ce phénomène, et en même temps, les besoins de sommeil sont très grands. Donc on se retrouve là avec, malheureusement, une situation problématique.
Est-ce à dire, Claude Gronfier, qu'il faudrait davantage travailler la question de la lumière sur le déroulé de la journée ? Plus de lumière à midi, par exemple, même s'il fait un peu sombre à l'extérieur, et de moins en moins au fil de la soirée.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître comme étant absolument crucial. On a beaucoup parlé alors de l'effet des écrans, l'effet négatif des écrans le soir, smartphone, téléviseur, y compris téléviseur, qu'on oublie souvent, tablette et ordinateur. Mais il y a quelque chose d'assez crucial qui apparaît maintenant dans toutes les études, c'est le problème de se coucher un peu tardif vient aussi du fait que pendant la journée, eh bien, les adultes et les adolescents et les enfants sont de moins en moins exposés à la lumière naturelle. Vous savez, dans nos pays industrialisés, on passe à peu près 90% de notre temps pendant la journée à l'intérieur des bâtiments. Et donc, cette absence de lumière naturelle dans laquelle on a évolué depuis l'aube de l'humanité, finalement, pose problème. On dit souvent que le sommeil se construit pendant la journée. Il se construit pendant la journée aussi grâce à la lumière à laquelle on est exposé. Donc, il va falloir prendre ça en compte. C'est un nouveau savoir, on peut dire. Hein, ça date d'une dizaine d'années maintenant. Et on se rend compte que eh bien, les individus, celles et ceux, enfants et adultes, qui ont du mal à se coucher le soir, eh bien, pourraient se coucher plus tôt en augmentant leur exposition à la lumière pendant la journée.
D'où l'intérêt, alors déjà de vivre dans un endroit où il fait un peu plus beau, si on peut, mais ça c'est pas toujours possible. Mais par exemple de faire la classe dehors, c'était le sujet d'une émission toute récente du 10 décembre. Et chers auditeurs, je vous conseille d'en écouter le podcast parce qu'on a beaucoup réfléchi à ce que c'était que la nature pour les enfants, mais aussi l'intérêt de sortir. Ça fait partie des préconisations pour mieux dormir, d'emmener non pas seulement les enfants, mais aussi les élèves à l'extérieur. Stéphanie Massa.
C'est l'exposition à la lumière naturelle en journée qui va nous permettre de dormir correctement sur un horaire de nuit. Et le fait de permettre aux élèves de sortir, et la classe dehors, c'est un super exemple par rapport à ça, c'est leur permettre d'engranger de la lumière naturelle au bon moment de la journée. Et donc, on va quelque part resynchroniser notre horloge biologique grâce à cela. Dans les exemples qui ont été donnés par les ados qui sont sur le plateau, le fait d'avoir des après-midi où on va faire aussi de l'activité physique en extérieur, ça participe à ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas trop s'exposer sur la fin de la journée et plutôt s'exposer sur le début de la journée. Et c'est un vrai mécanisme pour resynchroniser notre horloge.
France Culture, être et savoir.
Je ne peux plus me réveiller.
Louise Touret.
Rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Que moi. Infiniment bleu que je trouvais dans tes yeux.
et savoir à la recherche du sommeil perdu avec nos invités. On a vu que le sommeil des enfants et des adolescents était bien différent de celui des adultes et que particulièrement pour les adolescents, on avait du mal à penser aujourd'hui à des aménagements pourtant adéquats dont on sait qu'ils leur permettraient de mieux apprendre parce qu'on a besoin de bien dormir pour bien apprendre et pour bien grandir. Il y a aussi des questions de santé mentale, ça on l'a pas encore complètement abordé. Et puisqu'on écoutait cette chanson « Le grand sommeil » qui date de 1989, et j'étais moi-même en troisième comme vous, Marie-Lou et Alphonse, je me suis demandé si faire la grasse matinée, c'était une bonne chose ou pas. Mais avant de poser la question à des spécialistes, je vous la pose à vous. Est-ce que vous faites la grasse matinée le week-end, Marie-Lou ?
Oui, quand j'en ai l'occasion, je la fais. Mais c'est pas tous les week-ends, malheureusement. Mais certains week-ends et pendant les vacances, oui, j'adore.
Alphonse, la grasse matinée ?
Pendant les vacances, oui. Mais sinon, j'aime bien me lever à 8 heures, généralement, même le week-end.
Waouh ! Mais ça va peut-être pas durer parce que t'es pas au bout de ton adolescence. Alors, ce qu'on voit, c'est que on a tendance à se décalé, ce qu'on voit, ce qu'on constate, ce qu'on sait, hein, c'est pas des choses que je tire de ma vie personnelle, Stéphanie Maza. On se décale le mercredi quand on n'a pas cours. Il y a longtemps eu un film le mardi soir hein, pour que les enfants puissent se coucher un peu plus tard. Le week-end et bien sûr les vacances. Est-ce que c'est bon ou pas bon ? On va essayer de se donner quelques indications sur comment mieux s'organiser hein, en termes de sommeil.
Alors c'est vrai que dormir un petit peu plus le week-end, ça peut paraître agréable, c'est vrai, mais en fait ça va induire ce qu'on appelle un jet lag social, c'est-à-dire qu'on va avoir une irrégularité dans nos rythmes la semaine. Et en fait, quand on parle d'un bon sommeil, on parle d'une durée de sommeil suffisante, on parle d'une qualité de sommeil suffisante, mais aussi on parle de régularité de sommeil tous les jours de la semaine. Donc justement, cette grasse mat, en induisant cette irrégularité, elle va perturber le sommeil. Il faut savoir que les heures de sommeil le matin sont pas très riches en sommeil long profond. Le sommeil long profond, c'est notre sommeil réparateur et que ce sommeil long profond a plutôt tendance à arriver en début de nuit. Donc si on veut dormir correctement, il vaut mieux se coucher tôt que se lever tard. Même si la grasse mat, c'est quelque chose d'agréable, il faut essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop décalée par rapport aux autres horaires. On considère qu'un décalage de maximum 2 heures entre les horaires de semaine et de week-end, ce serait ce qu'il faudrait. Plus, on va induire ce qu'on appelle de l'irrégularité.
Est-ce que finalement cette question de la régularité n'est pas la plus compliquée à faire passer auprès du grand public, Claude Gronfier ?
Oh, je crois qu'elle est compliquée, mais la notion aussi de durée du sommeil était tout aussi importante finalement. Pour ce qui est de la stabilité, c'est vrai que on a toujours tendance à penser, comme Stéphanie Maza l'a bien expliqué avant, que en effet, en se décalant, ça semble une bonne idée, en se couchant éventuellement même d'ailleurs un peu plus tard le vendredi soir et le samedi soir, et en se levant un petit peu plus tard, finalement, on va non seulement être plus heureux parce qu'on se couche un peu plus tard, ça fait du bien pour ceux qui le souhaitent, mais en plus le fait de se lever plus tard, ça va permettre de récupérer un peu de sommeil. Et comme elle l'a très bien dit, c'est malheureusement une mauvaise idée. Les études le montrent très bien, non seulement le sommeil est de moins bonne qualité, mais ça va avoir des conséquences. Par exemple, quelques études plus récentes chez l'adulte, il n'y a pas de raison de penser que ça sera différent chez l'adolescent, qui montrent qu'en se décalant le week-end, en se faisant la grasse matinée, on va induire des troubles du métabolisme, voire même des troubles du système cardiovasculaire, quand cette situation-là est chronique. Et même d'ailleurs, quand on la teste en laboratoire, avec des gens qui ne passent qu'une semaine en laboratoire, quand on compare ceux qui se lèvent tard avec ceux qui se lèvent à la même heure le samedi que le vendredi, eh bien, ceux qui se lèvent à la même heure, finalement, s'en sortent mieux. Donc, il y a bien un problème une nécessité de stabilité du cycle veille-sommeil qui est indispensable. Et ça, pourquoi ? Ben là encore, on en revient à cette notion d'horloge biologique interne. Notre horloge biologique interne, eh bien, elle doit rester parfaitement calée sur la même heure. On ne peut pas s'amuser à changer de zone horaire, de fuseau horaire entre la semaine et le week-end perpétuellement. Il faut se stabiliser, il faut vivre dans un seul fuseau horaire.
Mais ce que vous nous demandez, ou ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé, c'est mener une vie de moine. Enfin là, on est pendant les fêtes, au moment où cette émission est diffusée. Et donc, il y a plein d'occasions de se réunir, de se réjouir et parfois de se coucher tard. Et vous nous dites que c'est mauvais pour la santé, que le temps de sommeil perdu ne se rattrape guère. Ça, c'est quand même une extrêmement mauvaise nouvelle. Est-ce que vous croyez qu'on peut écouter des conseils finalement aussi difficiles à suivre, Claude Gronfier ?
Alors non, on ne demande pas à avoir une vie d'ascète ou à vivre comme des moines, même si la vie de moine n'a rien de problématique en tant que telle. Mais ce qu'on préconise, nous, c'est des éléments qui nous permettent, enfin qui sont d'ailleurs soutenus par la science et supportés par la science. Alors on a le droit de choisir. On a le droit de choisir de se coucher n'importe quand et se lever n'importe quand. Mais le risque, c'est qu'on risque d'être malade. Donc il vaut mieux recommander un sommeil stable. Et ça ne change pas le fait que la journée, alors classiquement chez l'humain, la journée est entre 14 et 16 heures. Ça, c'est la journée, le temps qu'on passe éveillé. Et le sommeil va être entre 8 et 10 heures. Mais c'est une question de temporalité. On va vivre le même nombre d'heures éveillées. C'est juste que si on les décale, on prend un risque.
Ma question, elle est un peu plus sérieuse que ça, et je pense que vous l'avez entendu, Claude Gonfier. Du coup, je la pose aussi à Stéphanie Mazza. C'est aussi la représentation de ce que c'est que de vivre. Et que de vivre une vie pleine, riche, amusante, une vie faite aussi de liens qui comptent beaucoup pour nous et qui participent à notre santé. Et ça rentre en conflit avec le sommeil.
Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on a une représentation du sommeil qui serait nous priver d'autres occupations qui ne peuvent se faire que quand on est éveillé. Donc effectivement, tout ce qui va être social, tout ce qui va être en lien avec l'amusement, etc. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu comme pour l'alimentation, puisque maintenant on a réussi à se faire une belle représentation de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on peut de temps en temps quelque part déroger à des règles alimentaires, mais après de se remettre correctement sur un bon rythme. C'est un peu la même chose pour le sommeil. Et je pense qu'il faut qu'on lutte un petit peu sur cette idée que le sommeil, si on dort bien, on ne va pas profiter. Au contraire, je pense que quand on est en dette de sommeil, on n'arrive même plus à profiter de notre temps éveillé. Donc c'est plus de voir le sommeil comme une opportunité d'encore plus profiter de notre temps éveillé.
Mais ce discours, alors qui est pas trop moralisateur hein, dans votre bouche, effectivement, mais qui est quand même un discours de santé et de responsabilité. Si on compare avec l'alimentation, on sait que c'est très difficile de convaincre un ado de manger plutôt des brocolis que des chips, et que finalement, quand il fait, enfin, je sais pas, vous me dites, hein, Marie-Lou et Alphonse, quand vous faites vos choix, vous n'allez pas forcément naturellement vers les crudités et les courgettes à l'eau. Donc, ce discours santé, est-ce qu'il n'est pas un peu contre-productif? Ce sont aussi des représentations qui percutent un certain hédonisme adolescent.
Oui, mais je pense qu'en fait, on leur parle peut-être pas assez aux ados, parce que je pense qu'ils aiment dormir. Concrètement, je pense que quand on leur pose la question, ils aiment dormir. Et dormir, c'est aussi toute une vie interne qui peut être extrêmement riche et qui peut être extrêmement intéressante. Quand on commence à réfléchir sur les rêves, quand on commence à réfléchir sur la créativité, je pense qu'il faut aussi sortir de cette image un peu moralisatrice de santé au sens strict. C'est un échappatoire magnifique, le sommeil. Et je pense que quand on discute avec les ados, ils aiment dormir. Sauf qu'ils n'aiment pas dormir aux mêmes horaires que ceux qu'on leur impose.
Marie-Lou, tu aimes dormir?
J'adore dormir.
Alphonse?
Bah oui, j'aime dormir.
Mais alors, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup d'œuvres hein, aussi sur l'insomnie, de gens qui disent que le sommeil qui raconte, telle Barbara que j'ai citée un petit peu tout à l'heure, que le sommeil leur fait peur et finalement leur procure des craintes. Alors, on a tous finalement aussi maille à partir avec notre vie et notre passé, peut-être moins les ados que les adultes. Mais pour revenir à vous, Claude Gonfier, sur cette représentation du sommeil santé, est-ce que c'est un discours qui peut toucher les jeunes?
Oui, moi je pense qu'il peut toucher les jeunes. En effet, il faut un petit peu réfléchir à quelle importance on attache au sommeil. Et si on explique très simplement que le sommeil va permettre des performances physiques et sportives meilleures, eh bien toutes celles et ceux qui pratiquent le sport, surtout le sport en compétition ou même d'ailleurs pour se faire plaisir, on se fait plus plaisir quand on a bien dormi et qu'on pratique un sport plutôt que quand on est en dette de sommeil. Quand on regarde l'effet de la dette de sommeil sur la peau, sur le teint, sur la qualité des cheveux, sur le soyeux des cheveux, là encore, les études montrent que la dette de sommeil va avoir un effet négatif sur la peau, sur le grain de la peau, sur le brillant et le soyeux des cheveux. Donc quand on apporte ces éléments-là, on n'est plus en train de chercher à moraliser, on explique que dans certains cas, rajouter quelques heures de sommeil, ne serait-ce qu'une heure par nuit, eh bien ça va procurer du bien-être et du plaisir plutôt que l'inverse.
Donc plutôt parler de plaisir que médicaliser.
Oui, sans doute parler de plaisir et de santé. La bonne santé est plus favorable au plaisir, au ressenti du plaisir, qu'une situation de mauvaise santé, dans tous les cas. Oui.
Alors, il y a aussi une question de représentation. Comment expliquer que quand on dort, on ne fait pas rien ? Claude Gonfier.
Ah, alors, comment l'expliquer ? Je pense qu'il suffirait que les gens observent des enregistrements du sommeil. C'est absolument fantastique. Quand on regarde l'électroencéphalogramme, qui est cet enregistrement de l'activité électrique du cerveau avec des électrodes, c'est ce qui nous permet de savoir si quelqu'un a une pathologie du sommeil, par exemple, eh bien, on voit qu'il se passe des choses phénoménales. Le sommeil, c'est pas du tout comme on le pensait dans les années 30 ou 40 encore. Quoique 30, c'était la découverte des ondes de l'électroencéphalogramme. C'est pas du tout binaire. C'est pas on est éveillé puis on dort. C'est pendant le sommeil, il y a une activité électrique très riche. Il se passe beaucoup de choses. Au début de nuit, c'est la libération de l'hormone de croissance, par exemple, qui est très importante. Un enfant qu'on va mettre en dette de sommeil ou qu'on va coucher trop tard va libérer un peu moins cette hormone de croissance. Et quelques études ont suggéré que ça pouvait avoir un lien avec le ralentissement de la croissance. Donc, quand on explique ça aux parents et aux enfants, on peut comprendre, enfin, en tout cas, ils vont comprendre plus facilement que, attention au sommeil de début de nuit, par exemple. Et puis, il se passe, comme Stéphanie l'a dit, les processus de mémorisation, les processus de réparation des tissus, réparation des muscles, ça se passe pendant le sommeil. Donc, il se passe énormément de choses. C'est la vie cérébrale, la vie de l'organisme pendant le sommeil, elle est hallucinante.
Donc, c'est toute une culture du sommeil, une connaissance à diffuser. Est-ce que c'est ce que vous faites au Conseil scientifique de l'éducation nationale, Stéphanie Mazin? Enfin, vous ne faites peut-être pas que ça, mais est-ce que c'est aussi pour porter cette parole que vous participez à ce conseil?
Ça fait partie, effectivement, de nos missions. Et dans le groupe de travail que j'anime sur le bien-être à l'école, on a fait énormément d'actions pour justement promouvoir l'éducation au sommeil à l'école. Parce que je pense qu'on connaît trop peu de choses sur le sommeil et du coup, on s'y intéresse peu. Et quand on a co-construit avec des adolescents un challenge pour leur permettre d'apprendre à quoi ça servait de dormir, on leur a vraiment fait découvrir le monde du sommeil et ils sont extrêmement intéressés par ces connaissances-là. Et on le voit de la maternelle jusqu'au collège, ils ont envie de savoir ce qui se passe pendant qu'on dort et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment.
Alors j'allais y venir à ce challenge, ce défi. C'est 3 semaines pour mieux apprendre à dormir, accessible à tous, c'est-à-dire qu'on peut le faire individuellement. Moi, je vous ai demandé, Alphonse et Marie-Lou, de regarder, mais bon, on n'avait pas 3 semaines devant nous, où on peut le faire en classe.
Exactement, l'idée, c'était de co-construire avec des enseignants de SVT, où on a donné des apports un peu théoriques sur le sommeil et le rôle du sommeil sur la biologie, on va dire, de l'humain. Et on a co-construit un challenge, et les adolescents peuvent se connecter, donc c'est gratuit. Et tous les jours, on va leur donner des informations sur leur sommeil, et on va leur demander d'analyser leur propre sommeil, d'essayer de voir à quelle heure ils se couchent, à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure est-ce qu'ils éteignent les écrans. C'est absolument pas moralisateur, mais c'est plutôt pour leur donner des petits tips concernant leur sommeil. Et on voit qu'au bout de 3 semaines, ils réussissent à améliorer la qualité de leur sommeil et ça réduit leur impulsivité, puisque vous savez que le sommeil, ça permet aussi de gérer les émotions et gérer les comportements. Et on voit que ça fonctionne. Donc, on n'est pas moralisateur, c'est pas papa, maman qui vont expliquer les choses, mais c'est l'ado qui découvre pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant de dormir.
Comme pour tous les apprentissages, il faut de la motivation intrinsèque. Claude Gonfier, on a parlé des rythmes quotidiens, il faudrait se lever à des heures hyper régulières, mais quid de la distribution du temps de vacances dans l'année? Le CESE a proposé de réduire le nombre de zones du calendrier scolaire de 3 à 2. Est-ce que ce rythme de 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances est positif et meilleur à vos yeux?
Alors, la question n'est pas si simple. La question n'est pas simple parce que quand on regarde la littérature scientifique, eh bien, ça a été peu étudié, cet aspect-là. On a étudié la rythmicité dans la semaine et les recommandations à l'époque avaient été de garder une semaine avec 5 jours d'école. Et ces recommandations n'ont pas été suivies. La semaine, dans les grandes villes, un certain nombre de grandes villes, la semaine est revenue à la semaine des 4 jours. Quand on regarde maintenant la littérature scientifique sur les vacances, il n'y a pas grand-chose. C'est du temps long. Pour que les études soient faites, il faut observer des classes pendant du temps long. Et à ma connaissance, rien ne permet réellement de recommander 6 semaines plus 2 semaines versus 7 semaines plus 1 semaine ou l'inverse. Vous savez, évidemment, et Stéphanie le sait encore mieux que moi, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur cette question, mais le problème, l'un des problèmes de nos horaires et de notre rythmicité à l'école en France, c'est qu'on fait partie des pays européens avec le moins de nombre de jours d'école pendant l'année. Et c'est ce qui explique pourquoi on est l'un des pays européens avec le plus d'heures de cours pendant la journée. Donc il y a quelque chose à revoir, non seulement en termes de nombre d'heures par jour, mais il va falloir évidemment réfléchir à la possibilité de changer la rythmicité de ces vacances-là, sachant que bien sûr, il faut qu'il y ait cette phase qui est absolument nécessaire. Les enfants ont besoin de récupérer. Les 6 semaines actuelles, on voit bien que tout le monde est épuisé à la fin de ces 6 semaines et tout le monde généralement collapse pendant les premiers jours avec beaucoup de sommeil parce que la fatigue s'est installée. Donc il faut évidemment garder une période pendant laquelle il y a besoin de récupérer. Mais il faudra se poser la question de savoir est-ce que ces 2 semaines sont une bonne chose ou est-ce qu'il faudrait modifier de manière à raccourcir la durée de la journée scolaire pendant la journée, permettre d'autres activités à l'extérieur justement, de manière à éviter d'obtenir cette cyclicité 6 semaines, 2 semaines qui finalement est le résultat d'un nombre d'heures dans la journée trop élevé.
On fait des drôles de compromis. On dirait en France, on se plaint d'être très fatigué. Et parce qu'on est très fatigué, tout le monde semble avoir énormément besoin de ces 2 semaines de pause qui interviennent parfois au bout de 6 semaines, mais parfois beaucoup plus, puisqu'il y a 3 zones, justement. Donc si les vacances, par exemple, de printemps sont très tôt, beaucoup de semaines avant début juillet, quand les cours s'arrêtent. Et pour les enfants de primaire, ils s'arrêtent vraiment après la première semaine de juillet. Donc c'est comme si on était dans une gestion très nerveuse de cette question de la fatigue et de la répartition du temps, non plus sur la journée, déjà ça se passe pas très bien, mais sur l'année. C'est très bizarre, je ne me l'explique pas.
Et c'est assez compliqué, effectivement. Et quand on a entendu ce que Marie-Lou disait sur sa journée, on se rend compte que la journée, ben voilà, on a que 24 heures et on la remplit, on la remplit, on la remplit. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qui soit un petit peu plus étalé pour leur permettre de souffler un petit peu. Vous savez très bien que ces pauses un petit peu, même mentales, elles sont extrêmement importantes pour les adolescents, refavoriser du moment où ils ne font rien et peut-être pas uniquement sur la période de vacances scolaires. Après, vous savez que cette période de vacances scolaires, 3 zones, 2 zones. On a aussi une problématique qui est de pouvoir passer du temps en famille et qui, inévitablement, avec des familles qui sont souvent recomposées, il faut qu'on puisse partager du temps avec l'ensemble de nos parents. Donc, il y a aussi cette réflexion-là. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit au début de cette émission, on a un petit peu l'impression que tout se court-circuite quand on parle du sommeil. Et de fait, il y a tellement de choses à envisager que finalement, on ne réfléchit plus du tout là-dessus, comme si c'était un petit peu trop complexe. Mais je pense que c'est vraiment sur le temps long qu'il va falloir réfléchir à nos horaires et nos occupations. Vous avez tout à fait raison. Pas que la journée, pas que le week-end, mais aussi sur l'année.
Donc ça veut dire qu'au-delà de la consultation et de la convention citoyenne, au-delà des ministres qui de temps en temps prennent la parole sur la question, on commençait à 9h, c'était déjà une idée qui avait été lancée par Jean-Michel Blanquer et je pense qu'on en avait déjà parlé auparavant. Il faut un travail plus en profondeur.
Complètement sur le long terme. Pas réfléchir. Après, vous savez qu'en France, on va réfléchir aussi par ministère. Donc là, quand c'est le ministère de l'Éducation nationale, on va parler du temps scolaire. Mmh. Et vous avez vu peut-être avec les discussions sur la Convention citoyenne, quand on a commencé à dire, mais le rythme de l'enfant, c'est pas uniquement le rythme de l'école, c'est aussi ce qui se passe après l'école, avant l'école, c'est tout de suite plus compliqué parce qu'on a du mal un petit peu à interagir là-dessus. Je prends un petit exemple, toujours sur le sommeil, par rapport à la sieste à l'école maternelle. On a une grosse problématique sur le fait qu'il faut respecter les besoins physiologiques des enfants, ne pas coucher tous les enfants puisque certains n'ont plus besoin de dormir en petite section, mais proposer encore la sieste à certains moyennes ou grandes sections qui en auraient encore besoin. Là, on est dans une difficulté puisqu'on est en train de parler à 2 entités différentes que sont l'éducation nationale sur les temps scolaires ou la pause méridienne. Et donc là, il faut parler avec les collectivités. C'est comme si finalement, on se renvoyait la balle et puis finalement, on ne statue pas à savoir si on fait faire la sieste ou pas parce que les personnes ont du mal à se mettre d'accord pour remettre encore une fois l'enfant et l'ado au centre de la préoccupation. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié dans cette convention citoyenne, c'est qu'à chaque fois, on a essayé de remettre l'enfant et l'ado au centre de la discussion.
On pourrait aussi parler, et peut-être que ça pourrait faire avancer les choses, de l'image et de nos représentations du sommeil des dormeurs, peut-être. J'ai commencé par parler de cette belle exposition, l'Empire du Sommeil, qui a lieu au musée Marmottan-Monet. Donc c'est à Paris. Peut-être qu'on aura l'occasion de la voir ailleurs. En tout cas, il y a un beau catalogue que j'ai le plaisir de vous offrir, Stéphanie Massa. J'ai vu aussi un groupe Instagram d'élèves qui se partageaient des photos d'eux qui dorment en cours. Mais c'est plutôt des étudiants et c'est très 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 drôle de voir tous ces gens qui dorment. Des photographes aussi s'intéressent à la question. Alors, est-ce qu'il faut comme ça plus se montrer, on a parlé de connaissances scientifiques, mais plus montrer ce que c'est que le sommeil dans la vie?
Je pense qu'il faut sublimer effectivement ce sommeil et qu'à l'heure actuelle, les gens qui parlent ont plutôt tendance à nous montrer que le sommeil, c'est une perte de temps et qu'il faut être actif pour être performant, etc. Et nous, on aimerait inverser la tendance et leur permettre de se rendre compte que le sommeil, c'est un moment qui est essentiel, mais c'est aussi un moment qui est plaisant. Tout à l'heure, vous parliez des insomniaques. Le problème dans l'insomnie, c'est cette recherche du sommeil. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de dormir, c'est que quelque part, ils n'y parviennent plus et c'est une vraie souffrance. Après, bon voilà, on ne faut pas rentrer non plus dans toutes les considérations, puisque vous avez parlé de Barbara, on sait qu'il y avait des traumatismes qui faisaient qu'aussi peut-être que le sommeil n'était pas quelque chose de plaisant. Exactement. Et là, il y a plein de travaux qui montrent ce lien entre sommeil et santé mentale. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur le sommeil pour aider justement à éliminer certaines problématiques, certains traumas, notamment il y a des études magnifiques sur le stress post-traumatique. Comment est-ce qu'on les accompagne dans la gestion de leurs cauchemars pour justement résorber cet aspect émotionnel du trauma?
Parce que pour faire face aux problèmes de santé mentale, dormir, c'est aussi un outil très puissant.
C'est un outil qu'on utilise, c'est-à-dire que quand on propose des accompagnements en thérapie cognitive et comportementale sur le sommeil, on le fait aussi pour soigner des troubles de santé mentale.
Claude Gronfier, sur ces rythmes qu'on n'arrive pas à respecter, quand on sait que le sommeil est une telle clé, quelles seraient vos préconisations? Alors là, non plus pour les individus, parce que c'est loin d'être une question individuelle, mais plutôt pour nous, alors peut-être nous les journalistes, mais aussi les politiques, sur peut-être les mots qu'il faudrait mettre sur le repos, le sommeil, le fait d'encourager les gens à dormir davantage.
Ah, je crois qu'il faut dire, alors ça a déjà été mentionné, hein, je crois qu'il faut dire qu'en effet, le sommeil, c'est la santé. C'est la première chose, c'est important, même si on ne va pas toujours tout axer sur la santé, mais dire que le sommeil, c'est la santé, le sommeil, c'est du plaisir. Et puis, là encore, le sommeil, pour s'installer, il a besoin d'obscurité, il a besoin de silence, il a besoin de se sentir en sécurité. Le sommeil, il est fragile, hein, il est fragile et assez peureux. Donc, il a besoin d'obscurité, de silence et de sécurité. Et les rythmes modernes effrénés dans lesquels on vit, eh bien, sont pas du tout compatibles avec le sommeil. Mmh. Il faut en revenir à des rythmes naturels. Il faut se souvenir qu'on est, nous aussi, des animaux qui avons évolué avec la lumière pendant la journée, l'obscurité pendant la nuit. Il faut prendre en considération le fait que les rythmes, eh bien, sont différents d'un individu à l'autre. Il y a des couches tôt, il y a des couches tard. Et il faut savoir, pour en revenir à l'enfant, que, eh bien, pendant la période de l'adolescence, les rythmes prennent du retard. Et il faut prendre ça en compte, sans quoi on fait pas ce qu'il faut. Il faut rester à l'écoute, à la fois de la physiologie et à l'écoute de ce besoin très spécifique qui existe chez les enfants, sans quoi c'est un problème.
Mais est-ce que le problème du sommeil, c'est qu'il n'est pas un peu trop gratuit? Il n'y a pas grand-chose à vendre aux gens qui dorment, bon, même si bien sûr on peut mettre des masques anti-rides, mais ça ne concerne pas trop les ados ou des produits sur ses cheveux. C'est pas très capitaliste le sommeil, et c'est peut-être un peu ça qui coince, enfin je ne sais pas.
Alors, une très jolie étude qui a été faite par un collègue qui s'appelle John Axelson en Suède, s'est intéressé à justement cet impact du sommeil sur la qualité de la peau. Son étude s'appelait Sleeping Beauty, vous savez, la belle au bois dormant. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a demandé à des individus, à des garçons et des filles, d'observer des images de gens qui avaient bien dormi ou qui avaient mal dormi. Et qu'est-ce qu'il a et leur demandait, alors comment est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ces images, et vous avez l'impression que les gens sont en bonne santé ou plutôt en mauvaise santé? Évidemment, tout le monde a trouvé que ceux qui avaient le mieux dormi étaient en meilleure santé, alors qu'ils ne savaient pas s'ils étaient bons dormeurs ou mauvais dormeurs. Et donc, ils leur ont dit ça. Et la plupart des gens qui ont suivi cette étude, alors j'ai oublié, c'était une centaine d'étudiants, eh bien, ont modifié leur comportement parce qu'ils avaient vu quel impact ça avait sur la peau. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, je pense qu'il y en a. Il faut par contre expliquer où ça se trouve l'intérêt et que en fait ça concerne tout le monde.
Alors un intérêt pour les gens, mais peut-être pas d'intérêt commerciaux. Et c'est aussi la question que je vous pose, Stéphanie Mazza. Il n'y a pas grand monde qui a beaucoup de choses à gagner sur le sommeil.
Mais en fait, si, puisqu'il y a plusieurs études qui ont montré le coût du manque de sommeil. Et c'est un vrai gouffre économique. C'est-à-dire que le manque de sommeil, ça va avoir un impact en accidentologie, ça va avoir un impact sur l'absentéisme au travail, ça va avoir un impact sur la production. Donc, il y a des études qui montrent le coût de la dette de sommeil. Et je pense qu'effectivement, si on s'intéresse vraiment à des économies, peut-être que faire de la prévention, ça vaut la peine dans le domaine du sommeil. C'est un vrai gouffre financier.
Donc, il nous faut des économistes sur ce sujet aussi.
Des économistes, et il y a déjà des publications qui sont faites, donc il faut les faire connaître, parce que c'est véritablement mesuré. Et par exemple, le coût de l'insomnie, quand on regarde combien ça coûte de ne pas traiter correctement l'insomnie, on se rend compte que ça vaut la peine quand même de mettre en place des traitements, et notamment des traitements comportementaux.
Claude Gronfier ?
Oui, alors le coût économique de la dette de sommeil ou du mauvais sommeil est très très élevé. Plusieurs études ont été faites sur ce sujet-là. Et par exemple, pour les employeurs qui ne conseillent pas toujours à leurs employés de bien dormir, quelque part c'est quelque chose d'intime et qui ne les concerne pas, ils se rendent évidemment bien compte des difficultés qu'ils éprouvent quand ils ont des employés qui sont en dette de sommeil, qui dorment peu et qui vont développer des maladies et qui vont accroître l'absentéisme dans leur entreprise. Ça va avoir un coût, ça leur parle.
Donc, on aurait intérêt à lancer des grandes campagnes de santé publique sur le sommeil, mais ce n'est pas du tout le cas. J'en ai jamais vu, Stéphanie Mazza.
Ça avance un petit peu. Donc, on a quand même bon espoir d'avoir un bien manger, bien bouger, bien dormir bientôt. Ce n'est pas encore le cas. En tout cas, vous savez peut-être qu'il y a une feuille de route interministérielle qui a été publiée cet été. Alors, quand on publie une note l'été, généralement, ça ne fait pas beaucoup de bruit dans les médias. Mais en tout cas, il y a plusieurs ministères qui se sont accordés pour mettre en place des travaux de grande ampleur pour favoriser le sommeil. Favoriser le sommeil à l'école, favoriser le sommeil en collège et en lycée, mais aussi dans la société, en jouant sur la luminosité, sur le bruit, etc. Donc, nous, on a espoir, on espère quand même que ça va un petit peu bouger. Mais effectivement, il faudrait promouvoir le sommeil comme on l'a fait pour l'alimentation, comme on l'a fait pour l'activité physique.
Chantier en cours. Enfin, un chantier qui ne devrait pas faire trop de bruit, je pense. Merci beaucoup, Stéphanie Mazza. Merci également à vous, Claude Gronfier, à Sophie Pissolo, qu'on a entendue dans cette émission, et à Myriam Enouaman-Jouali, enseignante. Merci. Alphonse, et merci Marie-Lou, ça vous a plu de participer?
Oui, beaucoup, oui.
Eh bien, vous allez revenir, je crois, dans un autre enregistrement. Merci beaucoup à Avril Ventura qui a programmé cette émission, réalisée par Camille Mathy, avec Noé Chaban à la technique. La semaine prochaine, tout va bien. Nous parlerons de l'excellent et touchant documentaire de Thomas Ellis qui porte ce titre et qui raconte les trajectoires de mineurs non accompagnés à Marseille.